don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
都忙。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Xavier Martinet, Tiffaine de Roquigny, Hélène Paquet, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Yannick Youdad. Cette semaine, nous allons consacrer notre série d'émissions au sport le plus populaire et aussi le plus médiatisé du monde, le football. De l'importance des mesures de sécurité à la géopolitique du ballon rond, en passant par l'appétit toujours plus grand de la Chine à son égard. Et ce matin, le foot, exaltation de la nation, ferment identitaire, on va s'intéresser en particulier à l'Albanie, qualifiée surprise et historique de cette Coupe d'Europe 2016.
Plus de la moitié de notre peuple vit en dehors des frontières de l'Albanie. Nous, on a envie d'être unis, on a envie d'être un.
Les talents albanais émigrés ou nés à l'étranger représentent un vivier important pour la sélection. Avec De Biasi, le sélectionneur, on en a appelé beaucoup.
Le premier téléphone que j'ai eu, c'est de Loïc Tallin. Et il m'a demandé comme quoi si j'étais intéressé de l'Albanie. Sauf que j'avais des problèmes de passeport, en fait. Parce que vu que nous, les Kosovars, on avait des passeports serbes. C'était vraiment très difficile, on va dire. Il fallait résoudre en passant par la FIFA, par l'UEFA, il fallait prendre des avocats. J'ai perdu 3 ans et demi avant de pouvoir être avec l'Albanie.
C'est l'Albanie qui nous réunit tous. Notre peuple est malheureusement dispersé partout en Europe. La guerre et l'histoire nous ont séparés pendant des années. Le sport rassemble tous les Albanais du monde. C'est la seule chose qui ne nous divise pas.
Extrait de ce documentaire Albanie, une équipe venue d'ailleurs qui a été diffusée il y a quelques semaines sur Canal+. L'Albanie participe à sa première Coupe d'Europe, un événement sportif bien sûr, mais aussi un événement historique et symbolique. Il suffit de regarder cette sélection pour comprendre quel est le reflet de l'histoire de ce pays des Balkans qui n'a pas été épargné par les crises depuis de longues décennies, en fait depuis le début de son existence. En effet, si la création de l'État albanais remonte officiellement en novembre de 1912, la lutte pour son existence, pour la reconnaissance de son identité, de ses frontières, s'est poursuivie dans le temps. De la République et des premiers temps démocratiques au temps de la monarchie d'avant-guerre, puis de l'occupation italienne durant la Seconde Guerre mondiale à la montée du communisme qui se poursuivra jusqu'à la dislocation du bloc soviétique en 1991. Pour l'Albanie, tout le XXe siècle a été une succession de crises, d'humiliations, de luttes et autres guerres. Pas étonnant donc que la qualification des joueurs albanais apparaissent aujourd'hui comme une revanche pour tout un peuple d'abord, mais aussi pour ces joueurs qui, s'ils viennent pour la plupart de l'étranger et vivent loin de la mère patrie, eh bien, ils ont fait le choix du cœur et des racines en portant le maillot rouge frappé de l'aigle à deux têtes. Alors que nous dit la petite histoire de cette sélection emmenée par un sélectionneur italien de la grande histoire de l'Albanie? Comment s'est-elle construite et quelles identités défend-elle? Force est de constater que dans les Balkans, peut-être plus qu'ailleurs, foot, identité et politique sont très imbriqués. Plus qu'un miroir de la société, le foot influe directement sur le récit national et sur l'agenda politique. Mais jusqu'à quel point, justement, le football influe-t-il sur le politique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. Au-delà des Balkans, on ira également du côté de la Grande-Bretagne, berceau du football et des grands derbys régionaux et nationaux, et où l'histoire du foot a tout à voir avec la révolution industrielle et l'identité même de la classe britannique, la classe ouvrière britannique. On verra ça tout à l'heure avec Joachim Barbier. Puis on ira également en Italie, où le foot est presque une religion, on le sait, souvent déchaînement de passion identitaire, parfois déchaînement de haine raciale. On en parlera avec Alessandro Aleotti, passionné et passionnant journaliste et président du club, le Brera Calcio, qui est à l'origine d'une sélection rome. Pour évoquer justement ce classico des identités, et aujourd'hui en particulier nous diriger du côté des Balkans, on a invité Loïc Trégorès. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex depuis Lille, vous êtes politologue, vous êtes un spécialiste des Balkans, vous collaborez régulièrement au Courrier des Balkans et vous réalisez en ce moment une thèse sur le football dans les Balkans et sur son implication, ses implications dans le politique à l'université Lille 2. Vous dites que dans les Balkans, le foot a un impact énorme sur la politique. Ça va bien au-delà évidemment du sport. Il y a des liens d'abord très forts entre les instances du football et le monde économique et politique bien sûr, mais y compris au niveau des supporters. Finalement, leur poids va bien au-delà au-delà de la seule enceinte du stade. Ils peuvent peser dans des manifestations, ils peuvent même participer à des renversements de régime, on l'avait vu avec Milosevic. Dans les Balkans, le foot conduit la politique et inversement.
Oui, parce que l'histoire de l'ex-Yougoslavie notamment a fait que dans les moments charnières de la fin des années 80, du début des années 90, les supporters de football étaient un groupe social qui était facilement mobilisable, et qui était mobilisable sur l'idée de nationalisme et sur l'idée d'indépendance de chacun des pays. En outre, c'était aussi des gens qui étaient mobilisables ensuite pour aller tout simplement sur le front. Se battre avec des vraies armes pour l'indépendance ou pour la défense de Sarajevo, pour l'indépendance de la Croatie ou pour nettoyer ethniquement l'est de la Bosnie de tous ces Bosniaques en ce qui concerne les Serbes qui sont allés avec Arkan.
Mercredi, Loïc Trégourès, l'Albanie rencontrera l'équipe de France. C'est la première fois qu'elle joue une Coupe d'Europe, je le disais, et pourtant elle partait de loin. Quand on regarde il y a 20 ans, l'Albanie était très très loin au classement FIFA. Alors sa participation à l'Euro 2016, c'est bien sûr un exploit sportif, mais c'est plus que ça, c'est un événement historique pour ce petit pays, je le rappelais un petit peu dans mon introduction, secoué régulièrement par des crises à répétition ces dernières décennies, ce qui explique évidemment l'engouement absolument extraordinaire du peuple albanais pour sa sélection. On s'en rend peut-être pas compte, nous, ici, de France, mais c'est absolument incroyable l'effervescence qu'il y a autour de cette équipe.
Oui, alors, si on fait un peu d'histoire, il faut se souvenir que, contrairement aux autres pays communistes qui avaient beaucoup investi sur le sport en matière de reconnaissance internationale, l'Albanie était un pays qui s'était isolé, qui n'avait volontairement pas participé à différentes Olympiades, qui avait volontairement pas participé aux qualifications de Coupe du Monde, de Championnat d'Europe, et qui, lorsque ses équipes jouaient la Coupe d'Europe, et si le tirage au sort faisait que deux équipes jouaient à l'étranger en même temps, il y en a une qui devait déclarer forfait. Donc, n'ayant pas investi sur le sport, si on compare à l'ex-Yougoslavie qui, comme les autres pays, ont beaucoup investi sur le sport, ça signifie qu'il y a un retard considérable à combler, disons, à partir du début des années 90. Or, comme l'Albanie, dans les années 90, a également vécu des moments très compliqués jusqu'à la crise des pyramides en 97, il y a un retard considérable à combler dans les infrastructures, dans le savoir-faire, et ça, c'est un petit peu en train de se combler. C'est aussi pour ça que beaucoup de joueurs de la sélection albanaise viennent de la diaspora, parce qu'il y a encore des difficultés, c'est en train de s'améliorer, mais il y a encore des difficultés à fabriquer des joueurs en interne.
Oui, parce que vous l'avez dit, effectivement, pendant longtemps, l'Albanie a été un pays extrêmement fermé, totalement fermé. Il était quasiment impossible d'en sortir. Les footballeurs, eux, avaient parfois l'occasion d'aller jouer des matchs à l'étranger. D'ailleurs, durant l'un de ces matchs, il y a 25 ans maintenant, à Paris, justement, certains avaient profité pour échapper à la dictature et avaient refusé de rentrer. C'était le cas, par exemple, de Rudi Vata. C'est d'ailleurs quelques mois plus tard que, finalement, le régime communiste va tomber avec cette chute de l'URSS et que des milliers de personnes vont quitter le pays, des centaines de milliers de personnes, en réalité presque 1 million, si on regarde juste pour l'Italie et pour la Grèce voisine. Et puis, à la fin des années 90, c'est le conflit au Kosovo voisin qui va pousser, là aussi, les Albanais du Kosovo à partir. Cette fois plutôt du côté de la Suisse et du côté de l'Allemagne. Et évidemment, ce sont ces grandes vagues migratoires qui expliquent que cette sélection albanaise aujourd'hui s'est construite depuis l'extérieur.
Oui, absolument. Et alors, c'est de ce point de vue-là, en effet, vous l'avez dit, les Albanais d'Albanie sont plutôt allés en Italie et en Grèce. L'immigration que vous avez en Suisse est une immigration quasi exclusivement d'Albanais du Kosovo, mais qui se joue avant la guerre du Kosovo, qui se joue dans une première vague des années 60, quand le régime yougoslave encourageait les travailleurs à aller en Allemagne, en Suisse, etc. Les Albanais du Kosovo sont à ce moment-là allés en Suisse pour une première vague d'immigration de travail. Et puis, dans les années 90, quand les choses ont vraiment mal tourné au Kosovo, ils ont profité du regroupement familial pour créer une première génération d'Albanais du Kosovo, mais qui sont suisses. Ceux qu'on retrouve aujourd'hui sur le terrain dans la sélection suisse, c'est cette première génération de joueurs qui sont soit nés en Suisse, soit nés au Kosovo, mais partie très très jeune, à un an, à deux ans, en Suisse. Donc évidemment, ça crée des... pas des conflits d'identité, mais ça crée des interrogations d'identité. Et dans le match Suisse-Albanie, les joueurs d'origine albanaise qui jouaient pour la Suisse étaient sifflés. Parce qu'il y a un fond comme ça, on leur reproche quand même de pas avoir choisi la sélection albanaise qui est censée représenter, comme on l'entendait dans le son de votre introduction, qui représente, par-delà les frontières que l'histoire a tracées, une sorte d'albanité. C'est-à-dire le fait que, à travers cette équipe, ou à travers par exemple la littérature, une identité albanaise, indépendamment des passeports, indépendamment des frontières, se retrouve là-dessus.
Et aujourd'hui, vous diriez justement que cette albanité, elle se construit beaucoup autour du football, parce qu'évidemment, alors le symbole de tout ça, c'est évidemment le capitaine de l'équipe qui s'appelle Lorik Sana, qui est né au Kosovo, dont la famille a fui en 1992 pour aller s'installer en Suisse, qui a débuté d'ailleurs sa carrière de footballeur en Suisse, mais qui ensuite est parti. Et les Français le connaissent peut-être, en tout cas ceux qui aiment le football, puisqu'il est passé dans un certain nombre de clubs français, au PSG, à l'OM, à Nantes, je crois, notamment parce que sa famille s'est retrouvée sous le coup d'une procédure d'expulsion, puisque la guerre était finie du côté du Kosovo. C'est un homme clé de la sélection, on l'entendait tout à l'heure dans le petit son introductif. Et pas seulement du point de vue sportif, parce qu'il a beaucoup œuvré pour construire justement cette équipe. Mais vous diriez aujourd'hui que précisément le football permet de construire cette albanité dont vous nous parlez, parce qu'on connaît ce fameux projet nationaliste qu'on appelle la Grande Albanie, qui est assez largement fondé sur la langue albanaise et cet espace géographique qui découlerait en réalité de considérations linguistiques. Est-ce qu'aujourd'hui on a ce football qui vient se superposer et qui vient devenir un élément de l'identité albanaise?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce projet de Grande Albanie, ça regroupe, enfin politiquement, ça regroupe vraiment des franges marginales de l'opinion, que ce soit en Albanie, au Kosovo ou en Macédoine. Hein. Donc c'est plus un fantasme qui est développé ailleurs que quelque chose sur lequel qu'une véritable plateforme politique. Donc partant de là, puisque le discours narratif consiste à dire du côté des Albanais, nous sommes un même peuple, mais l'histoire, les frontières, les grandes puissances ont fait que nous ne pouvons pas être réunis dans un seul État-nation. Nous devons trouver des palliatifs, en quelque sorte, pour continuer de ressentir la même chose au même moment. De ce point de vue-là, la culture, le sport sont des moyens de ressentir ça. Néanmoins, il y a quand même un bémol par rapport à ça, c'est que le Kosovo va disputer les Jeux Olympiques et va désormais disputer des matchs officiels à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde et pour les prochaines compétitions. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième sélection qui sera composée vraisemblablement exclusivement d'Albanais du Kosovo. Donc là, il y aura peut-être... Enfin, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment sur qu'est-ce qui va se passer entre la sélection d'Albanie et la sélection du Kosovo. La sélection d'Albanie est composée de beaucoup de joueurs qui viennent du Kosovo, notamment Lorik Tsana. Le discours de Tsana, qui est un discours patriotique, qui consiste à dire que l'équipe d'Albanie doit être l'équipe de tous les Albanais. Donc est-ce que l'albanité doit s'exprimer, doit s'incarner dans cette équipe. Sauf que la question maintenant, ça va être, et dans cette équipe du Kosovo, qui va jouer? Est-ce que ça va être des joueurs qui n'auront pas le niveau pour jouer pour l'Albanie, ou bien est-ce que au fond ça va être des joueurs qui vont jouer pour le Kosovo parce qu'ils viennent du Kosovo, auquel cas ça pose un problème pour la sélection d'Albanie. Donc ça c'est pour le terrain, et puis pour les tribunes aussi. Dans les années qui viennent, on verra qui soutient la sélection du Kosovo, qui soutient la sélection d'Albanie, ou bien s'il y a une espèce de double allégeance qui se met en place. Mais c'est pas évident, parce que lorsque l'Albanie s'est qualifiée pour l'Euro, ils ont fait un match amical ensuite au Kosovo, et le principal groupe de supporters albanais a refusé d'assister au match en disant ce match est absurde, on ne peut pas jouer contre soi-même.
Oui, parce que vous avez raison, hein, Loïc Trégorès, vous me tendez une perche il y a quelques jours, et ça va être une véritable révolution dans cet espace balkanique et dans ce rapport entre l'équipe d'Albanie qui aujourd'hui existe et celle qui existera demain, parce que aujourd'hui, désormais, les instances du football européen et mondial reconnaissent le Kosovo. Écoutez.
La décision a été prise démocratiquement par les membres de l'UEFA. Au niveau sportif, la question était de savoir si le Kosovo était éligible pour devenir membre de l'UEFA, et nous avons voté oui. Et la deuxième question était de savoir si nos membres souhaitent l'intégration du Kosovo en tant que membre de l'UEFA, et aujourd'hui, ils ont voté qu'ils le souhaitaient.
Monsieur le Président, nous allons procéder au vote pour l'approbation de l'admission du Kosovo en tant que membre de la FIFA. Attendons les résultats. Nous avons une majorité de 86% pour le oui.
C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous en ce jour qui vient de voir la Fédération de football de Kosovo rejoindre la communauté de football mondiale. Je vous remercie sincèrement et chaleureusement pour cette décision. Mais plus encore, je le fais au nom des jeunes joueurs de mon pays qui attendent depuis longtemps le message d'institutions de football que aussi ils font partie de cette grande famille du ballon rond mondial.
Voilà, donc Loïc Trégorès, vous l'entendiez, une décision sportive mais qui va avoir des conséquences politiques. Désormais, les Albanais du Kosovo vont pouvoir jouer sous les couleurs finalement du Kosovo. Alors, les commentateurs sportifs, les observateurs nous disent que ça risque d'affaiblir considérablement l'équipe d'Albanie. Mais au-delà de ça, finalement, qu'est-ce que ça va changer dans le rapport entre l'Albanie et le Kosovo? Et finalement, qu'est-ce que le football pourrait-il permettre de construire comme identité spécifique du côté du Kosovo? Vous le disiez à l'instant, lors de ce match amical, finalement l'Albanie n'avait pas voulu jouer contre le Kosovo parce qu'on considérait que finalement on ne pouvait pas jouer contre vous-même, je reprends votre formule. Est-ce que finalement le football pourrait permettre justement de construire cette identité en opposition à l'Albanie?
Alors, c'était une petite correction, c'était le principal groupe de supporters de l'Albanie.
Oui.
Et dans le même temps, dans le stade, il y avait des supporters du principal groupe de Pristina qui soutiennent l'Albanie. Bon, parenthèse fermée. Ce qui est intéressant, on vient d'entendre Fadil Vokri, le président de la Fédération du Kosovo. Lui, son projet, c'est de créer une sélection qui soit une sélection du Kosovo et qui soit pas une sélection d'Albanais du Kosovo. C'est-à-dire qu'à long terme, pour Fadil Vokri, dans cette sélection du Kosovo, il doit y avoir des Roms, des Serbes, des Bosniaques, c'est-à-dire des gens qui sont du Kosovo, indépendamment de leur identité nationale.
On rappelle qu'il y a à peu près 90% d'Albanais au Kosovo, c'est ça.
C'est ça. Alors, tout le monde au Kosovo se sent du Kosovo, seulement on parle pas du même Kosovo. Donc, les Serbes du Kosovo se sentent du Kosovo. Les Albanais du Kosovo se sentent du Kosovo. Sauf qu'on ne parle pas de la même chose. Donc il y a évidemment une incompatibilité. On ne s'entend pas sur ce que c'est que le Kosovo. Et donc tout l'enjeu de Fadil Vokri, c'est à travers cette équipe et dans le temps, d'avoir... d'abord de faire un championnat réunifié qui impliquerait des équipes serbes du nord du Kosovo et des enclaves, et ensuite que ça ne pose plus de problème d'avoir des joueurs issus des diverses minorités dans cette équipe du Kosovo et d'éviter de faire que cette équipe du Kosovo soit non seulement une équipe d'Albanais mais en plus une équipe d'Albanais qui aurait choisi le Kosovo par défaut. Parce que il n'aurait pas eu le niveau pour jouer pour l'Albanie. Donc c'est un élément qui c'est trop tôt pour juger, mais il faudra regarder dans les prochaines années dans quelle mesure ce projet-là a un impact sur l'Albanité telle qu'on l'entend et sur la place de l'équipe nationale d'Albanie. Comme incarnatrice de cette albanité.
Oui, parce qu'on l'entend, derrière ce projet-là, c'est pas seulement un projet sportif, c'est un projet politique, une fois encore. Donc ceux qui vont finalement jouer pour le Kosovo sous les couleurs du Kosovo vont faire, qu'ils le veuillent ou non, un choix politique.
Alors on ne peut pas être derrière les choix de tous les sportifs.
Mais ça sera vu comme tel.
Si, au fond, le Kosovo est vu comme une sélection d'Albanie B, donc là, il y aura, Il y aura quand même une difficulté pour le Kosovo, en tout cas au niveau du football, à se démarquer, à devenir indépendant au sens footballistique du terme. Ce qui est assez ironique dans la mesure où aujourd'hui l'Albanie n'est pas du tout indépendante au sens sportif du terme puisqu'elle a largement recours à sa diaspora.
Loïc Trégourès, on va parler de la Serbie dans un instant, mais encore un tout petit mot sur ce Kosovo. Quelle a été la réaction des pays qui, depuis toujours, s'opposent évidemment à la reconnaissance du Kosovo? Et là, je pense bien sûr à la Serbie, mais je pense aussi par exemple à la Russie.
Alors,
quand les instances du football européen et mondial disent « mais oui, on reconnaît le Kosovo, vous allez pouvoir jouer les qualifications et jouer éventuellement des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde », comment ça réagit du côté de Belgrade et de la Russie et de Moscou?
Alors, il y a une hypocrisie qu'il faut lever. Les Serbes ont laissé tomber le sport. Quoi qu'ils en disent publiquement, évidemment, ils ne peuvent pas dire autre chose publiquement, mais la vérité, c'est que dans tout ce qui concerne, enfin dans toute la stratégie du Kosovo de reconnaissance dans les instances internationales, quelles qu'elles soient, les Serbes ont laissé tomber le sport. Ils se sont battus sur l'UNESCO, parce qu'au Kosovo, il y a des églises serbes qui datent du XIVe siècle et tout ça. Ça s'est joué à peu de choses, d'ailleurs. Mais quoi qu'ils en disent, ils ont lâché le sport. Et de toute façon, dès lors que le CIO a admis le Kosovo à l'unanimité, ça veut dire avec l'accord des Russes. Dès lors que le CIO a admis le Kosovo, il n'y a plus aucune raison que les fédérations internationales de sport refusent le Kosovo. Il n'y a plus de base pour le faire. La seule petite subtilité, c'est que les statuts de l'UEFA, qui avaient été bidouillés à cause de l'affaire Gibraltar, ne permettaient pas théoriquement, d'admettre le Kosovo. Mais l'UEFA est passée par-dessus, et c'est la raison juridique pour laquelle la Serbie va devant le tribunal arbitral du sport. Néanmoins, sur le principe, faut arrêter de se raconter des histoires, la Serbie a lâché sur le sport. Et donc, en considérant qu'il y a des choses plus importantes, l'ONU, l'UNESCO, bon. Et donc voilà. Et par ailleurs, le Kosovo va aller disputer les Jeux Olympiques au Brésil. Le Brésil ne reconnaît pas le Kosovo. Mais on va trouver des modus vivendi. La judokate Kelmendi a gagné, je crois que c'était les championnats d'Europe de judo, c'était en Russie. Et donc, vous aviez en Russie l'hymne du Kosovo et le drapeau du Kosovo qui a été joué.
Oui, c'est cocasse.
Donc, on trouve des accords. Et au final, ce qui va se passer, c'est que pour les matchs de foot, le Kosovo ne pourra pas jouer contre la Serbie et peut-être contre la Bosnie, jusqu'à un certain point.
Alors, Loïc Trégourès, justement, l'Albanie, elle a joué sa qualification contre la Serbie, précisément. Lors du match qui se joue alors à Belgrade, il y a un drone, on s'en souvient, qui avait survolé le stade avec ce drapeau de la Grande Albanie, donc ce projet nationaliste qui vise à regrouper dans un même État ces communautés albanophones des Balkans. Cet événement avait provoqué la colère des supporters serbes et des violences, souvenez-vous.
Ovo je provokacija, a zastavu je uhvatio Stefan Mitrović.
Ce sont probablement les conséquences de la guerre au Kosovo qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui, estime ce supporter serbe. Je crois que ce qu'ils nous ont fait au Kosovo en est la cause originelle. Cela ne peut que mal se terminer.
C'est vraiment une honte pour les Albanais. Je croyais que le sport devait l'emporter ce soir, pas la politique.
Les Serbes ont montré leur vrai visage, estime ce Kosovar. C'est une nation criminelle, c'était un match, ils l'ont transformé en arène de guerre.
Pour le Premier ministre serbe Aleksandar Vučić, il s'agit d'une provocation politique et elle avait plusieurs objectifs. D'abord, il y avait une tentative d'humilier le peuple serbe, dit-il. Deuxièmement, il y avait une volonté de causer à long terme une instabilité dans la région des Balkans et particulièrement en Serbie.
Voilà, des bagarres avaient éclaté dans ce stade, sur la pelouse, il avait fallu arrêter le match. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, avait accordé la victoire par forfait à l'Albanie. Loïc Trégourès, vous vous souvenez évidemment de cet événement, qui est un événement politique et sportif. Qu'est-ce qu'il nous dit justement sur cette rivalité entre l'Albanie et la Serbie? Vous avez entendu le Premier ministre serbe Vučić qui disait finalement c'est une provocation.
Oui, c'était une provocation. Alors si on laisse de côté les jugements de valeur, le coup du drone, je crois que c'était du jamais vu. Donc c'était plutôt bien joué, si j'ose dire.
Derrière ce drone, Ismaël Morina. Il va falloir nous dire qui est cet homme-là qui est devenu un véritable héros national.
C'est quelque part c'est ça qui est gênant. C'est un Albanais qui vit en Italie, évidemment avant le match retour en Albanie, il y a eu des portraits de lui partout dans la presse internationale. On l'arrête dans la rue pour faire des selfies. Il a fait une photo. Quelque part, moi, c'est ça qui me gêne. Il a fait ensuite des photos tout sourire avec la sélection d'Albanie. Ça me gêne un peu parce que au fond, son geste a déclenché tout ce qu'on a vu, a fait que le match a pas pu aller à son terme. Et c'est un peu gênant qu'un geste comme ça, avec la signification politique que ça a, que son auteur devienne comme ça une sorte d'icône et qu'il puisse faire des photos avec la sélection d'Albanie. Après tout, que les gens dans la rue l'arrêtent pour faire des selfies et le féliciter, ça les regarde. Si le tribunal arbitral du sport n'était pas revenu sur sa décision initiale de donner la victoire à la Serbie, peut-être que les choses auraient tourné autrement. Mais faire des photos avec la sélection d'Albanie et que les joueurs albanais trouvent ça très amusant. Moi, ça m'a gêné un peu plus. Après, sur le match et sur la dimension politique, je dirais que on n'a pas assez relevé dans cette affaire la responsabilité de l'UEFA. Parce que dans les qualifications précédentes, j'y étais, la Serbie et la Croatie étaient dans le même groupe. Donc on peut aussi imaginer que c'était des matchs à haute tension. J'étais aux deux matchs, les fédérations s'étaient accordées bien en amont pour qu'il n'y ait pas de déplacement de supporters et avaient parfaitement coopéré et tout s'était bien passé. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Jusqu'à deux jours avant le match, on ne savait pas si les Albanais venaient pas. Ça a créé beaucoup d'imbroglio, beaucoup de tensions avant le match. Et puis le dispositif serbe a été pris à défaut, même si il y a 40 secondes de bagarre sur le terrain, mais c'est 40 secondes de trop. Et puis si l'arbitre avait chopé le drapeau, tout ça serait jamais arrivé peut-être. Faut pas oublier ça. Donc après il y a eu 2-3 jours de brouille diplomatique, mais parce que il faut avoir conscience aussi que les médias dans les Balkans et en particulier en Serbie disent tout ce que le Premier ministre Aleksandar Vučić veut qu'il dise, et dans les termes qui doivent être dits. C'est-à-dire que vous avez des journaux qui sont polis, et puis vous avez des tabloïds qui sont très lus, et qui sont, eux, beaucoup plus hardcore, si j'ose dire. Tout ça fait monter une espèce de tension, mais ça a duré 3 jours parce que par ailleurs les relations entre l'Albanie et la Serbie sont peut-être un peu tendues, mais globalement l'Albanie et la Serbie en tant que telles se sont pas fait la guerre et ils n'ont pas intérêt à avoir de mauvaises relations. Donc ça a eu un effet catharsis qui a duré 2 jours, 3 jours. Après, il y a eu cette histoire d'arrestation du frère du Premier ministre albanais qui a pas duré très longtemps, mais quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, alors après, on a fait la fête à Pristina, on a fait la fête dans le nord de la Macédoine où vivent les Albanais, on a fait... Donc bien sûr, au niveau symbolique, là, pendant 48 heures, on avait beaucoup de matière.
Vous dites, Loïc Trégourès, que dans les Balkans, la Serbie a un statut à part, parce que c'est un pays qui n'est pas né d'une victoire, mais qui est né d'une défaite militaire et politique, contrairement à la Croatie, justement, dont vous parliez à l'instant. Finalement, la Serbie moderne, elle est le résultat du délitement de la Yougoslavie. C'est ce qu'il est resté après que tout le reste se soit écroulé, se soit effrité, y compris le Monténégro, qui finalement, lui aussi, a pris le chemin de l'indépendance. Finalement, cette Serbie, elle est sûrement le pays qui porte le plus, d'une certaine manière, l'histoire de la Yougoslavie, l'héritage. C'est la grande héritière de la Yougoslavie. D'ailleurs, la Serbie a été reconnue comme telle par la FIFA, puisque le pays est l'héritier des statistiques FIFA et UEFA dans l'histoire du football. Alors, comment est-ce que cette spécificité serbe, finalement, s'incarne dans le monde du football? Vous dites, par exemple, que le supporterisme serbe, il est ultra-violent. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est pas là le signe d'une certaine revanche de l'histoire? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire?
Non, je dirais pas ça. La violence des supporters serbes, elle est pas spécifiquement liée au destin de la Serbie, qui non seulement est un pays, dans le récit national serbe, On part d'une défaite qui est la défaite du Kosovo en 1389. Et si on revient à l'ère moderne, j'ai un petit peu travaillé sur comment on soutient l'équipe nationale dans l'ex-Yougoslavie. Et j'ai essayé de faire la comparaison entre la Croatie et la Serbie. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a un engouement, un enthousiasme nettement plus important pour la Croatie que pour la Serbie. Et l'hypothèse que je fais, c'est que la Serbie, telle qu'on la voit aujourd'hui, est un pays par défaut. C'est un pays qui a perdu la guerre, c'est un pays qui n'est pas stable dans ses frontières, parce que elles ont bougé et que la blague récurrente, c'était que quelle est la différence entre la Serbie et Nokia ? Bah, il en sort un modèle réduit chaque année. C'est un pays qui n'est pas stable dans ses frontières, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas défini son intérêt national et qui s'est pas remis de toute l'expérience des années 90. La guerre, la Grande Serbie, les sanctions, l'isolement international, le Kosovo, tout ça c'est lourd. Tandis que chez les Croates, non seulement le football a joué d'entrée de jeu un rôle très important pour l'incarnation et l'incarnation de l'identité nationale et tout ça. Et puis, grosso modo, la Croatie a gagné la guerre. La Croatie est peuplée à 90% de Croates. Donc la question croate est réglée, tandis que la question serbe n'a pas été réglée par la guerre, bien au contraire. Donc il y a ces éléments-là qui font que la sélection de Serbie est moins suivie et elle a besoin d'avoir beaucoup plus de résultats sportifs pour être suivie. Tandis que la Bosnie, l'Albanie n'a pas besoin de ça pour être suivie. Donc c'est plus ça plutôt que la violence. D'accord. Parce qu'au fond, la violence, c'est quelque chose qui est relativement commun. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Marseille.
Oui, bien sûr. Et puis par ailleurs, concernant la Croatie, il faut peut-être rappeler aussi que le premier président de la jeune démocratie, c'était Franjo Tudman, qui est décédé en 99, quelques mois après s'être illustré, en tout cas son équipe, en France en 1998. On s'en souvient, puisque les Croates avaient pris la troisième place. C'est un homme qui était fan de football et qui avait utilisé justement la Coupe du Monde, vous le dites, en France pour promouvoir son pays et les valeurs de la Croatie sur la scène internationale. Vous dites, je vous cite, qu'il avait utilisé le football comme instrument du pouvoir politique dans le processus de reconnaissance symbolique de la Croatie à l'international et dans la stratégie de conservation du pouvoir dans le pays.
Oui, parce que bon, alors Tudjman en 98, c'est quelqu'un qui est malade, qui est affaibli, qui décide plus de grand chose, mais qui trouve au fond de lui l'énergie pour aller au stade et pour vivre le dernier moment de passion. Tout au long des années 90, que ce soit le Dinamo Zagreb qui l'a fait renommer Croatia Zagreb, ou bien la sélection de Croatie, sont les fers de lance du nouveau projet de nation croate. C'est d'État-nation croate. Tudjman est fan de foot, tandis que Milošević ne s'intéresse pas du tout au sport. Donc là, on a aussi, au niveau personnel, on a aussi un élément d'explication. Cela étant, je me suis quand même replongé dans les archives de la Coupe du Monde 98 et de tout ce qui se disait sur Tudjman. La presse, en tout cas la presse française que j'ai un peu lue, n'était pas dupe de ça. Et voyait dans Tudjman un dictateur et ne voyait pas dans la Croatie le pays sympathique qu'on allait voir après le tournant de 2000. Ça veut dire après le tournant démocratique, la mort de Tudjman, le tournant démocratique, l'ouverture au tourisme, tout ce qui allait s'en suivre après. Enfin, la Coupe du Monde 98 n'a pas participé de la fin de l'isolement diplomatique de la Croatie. Ça se passe un peu après.
Avec
et
justement
à la mort de Tudjman et au changement du régime. Oui, oui.
Sur la planète football, des Balkans à Manchester, le classico des identités. C'est notre sujet ce matin avec Loïc Trégorès.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Et on va accueillir justement un nouvel invité pour aller du côté de la Grande-Bretagne. Bonjour Joachim Barbier.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à SoFoot, auteur entre autres de cet ouvrage « Ce pays qui n'aime pas le foot » qui était paru chez Hugo Sport en 2012. Vous connaissez très bien le football européen, mais peut-être plus particulièrement le football britannique. La Grande-Bretagne, bien sûr, le berceau du football, c'est là qu'il est né au milieu du 19e siècle. On se souvient que Joachim Barbier, c'est en Grande-Bretagne, c'est de la Grande-Bretagne en tout cas qu'est venue cette polémique sur la non-sélection de Karim Benzema et de Ben Arfa, dont Eric Cantona, ancien joueur de Manchester United, dont on va parlait tout à l'heure, quand il expliquait au Guardian que leurs origines étrangères en seraient l'explication. On a entendu beaucoup de voix prendre la défense du sélectionneur français, des voix qui notamment rappelaient les démêlés judiciaires, bien sûr, auxquels Benzema avait été confronté, évoquant le fameux devoir d'exemplarité aussi, dont les sportifs portant le maillot de l'équipe de France devraient faire preuve. En Angleterre, Joachim Barbier, est-ce que ce genre de polémique pourrait avoir lieu ?
Oui et non. Alors c'est un peu compliqué et puis un peu variable selon les époques et les cas. Mais je me rappelle par exemple que on avait fait une interview de Kolo Touré, un joueur ivoirien qui jouait à l'époque à Manchester City. Et dans l'interview, il nous avait dit si je ne joue pas plus, c'est parce que je dois partir jouer chaque année la Coupe d'Afrique des Nations. Et que quelque part, il y a une forme de racisme. Et quand l'interview a été publiée, il avait été évidemment repris par tous les journaux anglais. Et le club avait démenti, parce que pour les Anglais, l'accusation de racisme, je crois qu'elle est pire que tout, puisque il y a quand même à la fois des efforts qui sont faits, une tolérance avec, on va dire, les minorités ethniques et religieuses qui semblent beaucoup plus fortes qu'en France, et que, enfin, la notion de liberté et de on peut vivre avec son identité bien au-delà, c'est beaucoup plus important que finalement la notion d'égalité comme ça peut être le cas en France. Donc c'était un véritable scandale. Donc là, pour le coup, après il y a aussi des questions circonstancielles, c'est-à-dire que Cantona est quelqu'un qui est respecté de par sa carrière à Manchester United, et qu'il donne une interview au Guardian, parce qu'il sait très bien qu'effectivement ça va être plus facile d'abonder dans son sens. Mais je... Comment dire, cette question-là, elle peut survenir dans le débat public en Grande-Bretagne, mais globalement, la question de l'exemplarité est quand même une constante beaucoup moins forte qu'en France. Finalement, comme on est dans un pays de culture de football, on demande aux joueurs surtout d'être bons sur le terrain
et de gagner. C'est ça l'essentiel.
Oui, c'est ça l'essentiel, ouais. Parce que en Angleterre, le football est moins un objet politique qu'en France. En France, depuis 98, le football est, agrège un petit peu tous les débats publics, et on s'en sert pour parler d'autres choses, pour parler d'échecs de l'intégration, pour parler de différentes choses. Et alors qu'en Angleterre, comme on a une culture du football, comme vous l'avez dit, puisqu'on a inventé le football, donc finalement on est capable de le laisser là où il est, à sa place, et de relativiser sur son impact sociétal.
Oui, et après, en même temps, on peut aussi évoquer le football pour analyser d'autres tensions, et des tensions notamment sociales. Par exemple, regardons du côté de Manchester. On va parler ensemble de Manchester. Direction Manchester, Joachim Barbier.
My family home was in Openshaw and
la maison de ma famille était en quelque sorte juste de l'autre côté de la rue par rapport au stade. C'était un peu mon premier contact avec Manchester City. D'ailleurs, mon grand-père était fan du club, et le frère aîné de mon père était fan aussi. Ça se transmet en famille. Moi, je veux savoir tout ce qu'il est possible de savoir sur Manchester.
Et cette voix, c'était celle d'Albert Knowles. On connaît du côté de la Grande-Bretagne, pas forcément du côté de la France, et on le connaît en particulier du côté de Manchester. C'est le fan centenaire de Manchester City qui rate pas un match et qui, à chaque derby, vibre. Et le derby de Manchester, justement, Joachim Barbier, c'est le match qui oppose les deux clubs de la ville, les principaux rivaux, Manchester United d'un côté et City de l'autre. D'ailleurs, le premier match, j'ai regardé les archives, 1891. Et pour la petite histoire, victoire de United 5-1. On dit que à Manchester, City est probablement le club préféré des Mancuniens, alors que dans le reste du royaume, c'est plutôt United qui a les faveurs, disons, des amateurs de foot. Pour quelle raison, Joachim Barbier ? Et finalement, quelle est la nature exacte de l'opposition entre ces deux clubs ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, Manchester United n'est pas né à Manchester, il est né à Salford, qui est une ville limitrophe. C'est un peu comme si... C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, finalement, qui est pas le club de Paris. Donc ça, c'est la première raison. Et puis il y a la tragédie de Munich de 1958 qui déclenche une espèce de vague de sympathie et d'empathie incroyable dans tout le royaume. Et après, donc il y a une génération extraordinaire de joueurs. Donc souvent les gens qui ont commencé à aimer Manchester United en dehors du Greater Manchester. Ce sont des gens qui les ont aimés au fin des années 50 et puis dans les années 60, avec notamment aussi ce joueur nord-irlandais extraordinaire, George Best. Donc il y a ça, c'est la raison principale. Et puis derrière, vous avez Manchester City qui était implanté géographiquement dans le sud de Manchester, dans un quartier plutôt ouvrier, avec son stade. Et donc vous aviez les habitants plutôt issus de la classe ouvrière qui suivaient Manchester City, et puis vous aviez cette espèce de club comme ça du royaume, un peu à la manière de Saint-Étienne dans les années 70, qui était soutenu par des gens qui étaient partout en Angleterre.
Donc on n'a pas seulement derrière... on a un clivage géographique, on le comprend, mais on a aussi quand même un clivage social.
Il n'était pas évident au début, mais c'est surtout la question. Après, elle a été surtout sportive, c'est-à-dire plus vous gagnez des titres, plus c'est attirant de vous supporter, et donc vous transcendez, on va dire les classes sociales. Alors que quand vous êtes un club qui, comme Manchester City, avait gagné peu de titres, finalement vous restez sur vos bases géographiques et sociales. Et qu'est-ce qui vous reste dans ces cas-là? Effectivement, quand vous êtes supporter, c'est une espèce de fidélité à tout prix. Et pendant longtemps, les supporters Manchester City sont réclamés les supporters du vrai club de Manchester. Et puis on voit bien, il y avait beaucoup de groupes de rock dans les années 80-90 qui ont commencé à revendiquer ça, notamment Oasis et des gens comme ça. Donc voilà. Et puis comme Manchester City a été racheté par Abu Dhabi il y a une dizaine d'années maintenant, je pense. Donc voilà, tout ça c'est un peu dilué, même si la vraie intelligence des nouveaux repreneurs, ça a été de s'appuyer sur cette base très populaire, très locale, contrairement par exemple à la logique des nouveaux repreneurs du Paris Saint-Germain, qui ont voulu complètement changer la typologie des tribunes.
Mais là, on a voulu garder la base sociale des supporters de Manchester City, c'est voilà, ce qu'on a essayé de faire en tout cas.
Voilà, en conservant des prix assez bas, même si maintenant ils jouent dans un autre stade, ils sont sortis de leur... dans leur territoire de leur terre de naissance, mais il reste quand même quelque chose de très mancunien à City, qui est peut-être un peu moins évident à Manchester United, mais pas seulement parce qu'ils ont des supporters qui viennent de tout le royaume, mais aussi ça vient bien au-delà maintenant, puisque vous allez dans les tribunes et vous voyez des supporters venus de Chine, de Corée, du Japon, des États-Unis, du Canada, je ne sais où. Maintenant, quand on va se faire avec un tour opérateur, on va se faire quelques jours en Angleterre, on se paye aussi un match à Old Trafford ou même à Chelsea ou à Arsenal.
Oui, c'est très souvent en fait, hein, donc dans les grandes villes, on retrouve plusieurs grands clubs et qu'on retrouve finalement cette confrontation, disons, de classes, avec d'un côté les clubs riches, bourgeois, contre le club des classes populaires, même si en réalité, vous avez raison de le rappeler, tout ça c'est un petit peu dilué, notamment avec le rachat par des milliardaires de ces clubs. On va poursuivre dans quelques instants pour évoquer une autre rivalité, celle entre Manchester United et Liverpool, mais d'abord je voudrais entendre Loïc Trégourès sur ce sujet-là, peut-être sur la question de savoir, Loïc Trégourès, si justement dans les Balkans on retrouve aussi cette confrontation à l'intérieur d'une même ville avec deux clubs aux identités différentes qui revendiqueraient des identités diverses, Loïc Trégourès.
Je dirais que ce n'est plus tellement le cas. Ouais. On a, alors à Sarajevo ou à Belgrade, il y a une rivalité de clubs. Néanmoins, la distribution sociale des supporters des deux clubs ne trahit pas de quelconque division sociale ou même géographique. Dans Belgrade, dans tous les quartiers, vous avez des supporters de l'Étoile Rouge et des supporters du Partizan qui taguent les murs pour bien montrer leur présence. C'est pareil à Sarajevo, à l'exception du quartier de Grbavica, qui est le quartier du club de Željezničar. Mais en dehors de ça, socialement, on peut plus dire que vous avez, je sais pas moi, un club pour les riches ou un club pour les pauvres ou un club pour voilà. C'est une distribution qui ne marche plus.
Joachim Barbier, Dans le championnat anglais, le match où il y a peut-être le plus de rivalité, c'est probablement Manchester United-Liverpool, qu'on appelle le derby de l'Angleterre, en fait. Hein. On pourrait dire même du monde quand on regarde finalement le nombre de spectateurs qui peuvent regarder ce match. Ça peut monter à plus de 500 millions, 600 millions, donc on voit que c'est évidemment énorme. Cette rivalité, j'aimerais que vous nous disiez finalement d'où elle vient, cette rivalité entre Manchester United et puis Liverpool. Et puis la question qu'il y aura derrière, mais vous pouvez peut-être déjà l'anticiper, c'est que c'est aussi dans cette rivalité et dans les confrontations entre notamment ces deux clubs qu'à un certain moment dans les années 60-70 va émerger finalement le hooliganisme en Angleterre. C'est dans cette rivalité finalement que naît cette violence structurée, structurelle autour des rencontres de foot. On en a vu évidemment là il y a quelques heures ce week-end des exemples du côté de Marseille, et la question que je me posais c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que disons le hooliganisme, je vais mettre des guillemets pour le moment, on en reparlera demain, mais est-ce que c'est un élément de l'identité du supporter anglais? Joachim Barbier.
Non, ça l'est plus et depuis très longtemps. Donc après, il faut pas tout confondre. C'est-à-dire que les Anglais, notamment quand ils suivent leur équipe nationale à l'étranger, ils ont une façon de supporter. Donc ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ils font des bars leur territoire, ils accrochent leur drapeau, ils boivent et ils chantent et voilà, ça s'arrête là. L'hooliganisme est mort en Angleterre après les deux drames, celui du Hazel en 85 et celui de Hillsborough en 89. Après, il y a eu encore quelques incidents. Je crois que le dernier très important, c'était un match à Millwall en 2002, mais cette histoire est réglée depuis longtemps, à la fois parce que il y a eu un rapport après Hillsborough qui s'appelle le rapport Taylor, une commission indépendante qui a fait un certain nombre de propositions, je crois à peu près 75, pour que l'Angleterre ne vit plus jamais ça.
Donc c'est quelque chose qu'elle a dépassé et qui va mieux d'une certaine manière du côté de la Grande-Bretagne. On aura l'occasion d'en reparler demain. Pardon de vous couper la chic, Joachim Barbier, mais on a un troisième invité qu'il faut absolument qu'on lance désormais. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne suite et je rappelle aux auditeurs votre ouvrage « Ce pays qui n'aime pas le foot » qui était paru chez Hugo Sport. On va retrouver à présent Alessandro Aleotti, le président fondateur de Brera Calcio, la troisième et méconnue équipe de Milan, président d'un petit club mais surtout passionnant et passionné ancien journaliste, auteur de cet essai « Il Calcio Perfetto », le foot parfait, publié aux éditions du Brera Football Club. Il y explique que le football, véritable religion en Italie, mais surtout véritable fait social, est un langage reconnu de tous et que, fort de sa puissance, il peut et devrait être facteur de cohésion et d'insertion sociale. Pas seulement une affaire de business ou de droit télévisé, pas seulement l'opium des masses, le foot en Italie, un élément finalement d'identité. Alessandro Aleotti, au micro de Clémence Alezard.
Il calcio, diciamo, nel nostro paese è una dimensione molto forte.
Le football dans notre pays revêt en effet une dimension très forte, que ce soit dans les vécus ou dans les sentiments des Italiens. Tellement forte d'ailleurs qu'elle dépasse largement la dimension classique du sport pour rejoindre la dimension de l'identité véritable. Dans le sens où, et c'est comme ça que je définirais le football, surtout en Italie, que ce sport devient un phénomène méta-religieux. Ce n'est pas un hasard si la sémantique, donc le langage du foot, a beaucoup en commun avec le langage de la religion.
Quelles expressions renvoient à la religion, par exemple ?
Tante volte si dice portiere a benedetto.
Eh bien, par exemple, on dit très souvent quand un ballon sort du terrain, le gardien a béni le ballon. Elle semble anodine, mais c'est une expression tout à fait significative. On utilise un terme religieux pour dire que le gardien de but a prédit et permis que le ballon sorte du terrain. C'est un exemple, il y en a bien d'autres, de ce mélange entre le langage religieux et le langage footballistique. Ce n'est pas un hasard non plus si l'idée du foot correspond à certaines dynamiques de la théologie religieuse, dans lesquelles, substantiellement, le conflit ne revêt non pas une dimension historique classique, dimension dans laquelle il y a traditionnellement un vainqueur, un vaincu, et la règle est en quelque sorte édictée par le vainqueur. Non, au sein du football, il y a une règle abstraite qui unit les adversaires. Elle prend en quelque sorte une forme sacrée. Un conflit, quand bien même très brûlant, dans lequel sont utilisées d'ailleurs des terminologies plus dramatiques, plus crues, et qui font alors écho au mot de guerre, se retrouve chaque semaine, comme par magie, comme par miracle, à se répéter. Il y a une sorte de résurrection et un nouveau match se déroule, et on rejoue alors le même rite. Les matchs sont toujours des faits définitifs, ils ne sont jamais des éléments, des passages d'un discours progressif. Ce miracle, à chaque fois apparemment définitif, se reproduit toutes les semaines quand le match est rejoué. En Italie, le football est un fait majeur. Mais on peut déplorer qu'en dépit de cette importance indéniable, les acteurs du football en soient si inconscients, inconscients de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de ce fait socialement, mais aussi politiquement si important. Ceci dit, la conscience du monde politique n'est guère meilleure. Les personnalités politiques se contentent d'utiliser, quelquefois avec succès, le langage du football et toutes les métaphores footballistiques à des fins électoralistes ou populistes. Rappelons-nous que Silvio Berlusconi, quand il a fondé son parti Forza Italia, a utilisé intégralement la sémantique du foot. Forza Italia, déjà, c'est ce que les Italiens s'écriaient avant Berlusconi, lors des matchs de l'équipe nationale. Toutes ces métaphores du foot que même Matteo Renzi, l'actuel président du Conseil, reprend très fréquemment, témoignent du fait que la politique avalise le phénomène footballistique. Et pourtant, elle ne fait pas en sorte qu'il soit un facteur de cohésion dans la société.
À l'inverse, une grande partie de votre travail, Alessandro Aleotti, montre justement à quel point il est important d'appréhender cette fonction sociale du football. Je pense notamment à votre travail dans l'environnement carcéral en faisant jouer prisonniers et personnel pénitentiaire, mais aussi plus récemment à la sélection Rome que vous avez créée, la communauté Rome qui subit des violences et des discriminations particulièrement fortes.
Io con il club che ho fondato e che presiedo, che è il Brera Calcio,
Oui, avec le club que j'ai fondé et que je préside, le Brera Calcio, qui est, comme je le dis orgueilleusement, la troisième équipe de Milan. Les autres étant, comme vous le savez probablement, des grandes équipes mondiales, même si nous sommes maintenant la seule équipe dotée d'une gouvernance milanaise et italienne. Donc si nous ne pouvons pas évidemment jouer dans la même cour qu'eux, nous jouons dans une catégorie tout à fait amatrice. Nous avons beaucoup œuvré dans le rapport entre football et criticité sociale. En prison, comme vous l'avez rappelé, et plus récemment, quand nous nous sommes emparés de la dite question Rome. La communauté Rome fait de l'objet en Italie, comme partout en Europe d'ailleurs, de discriminations culturelles très fortes. Ils sont à peine considérés comme des êtres humains. Il nous a donc semblé important de travailler sur le thème identitaire pour construire justement une identité positive dans ce langage universellement reconnu. Donc ce travail est passé par la fondation d'une équipe composée de joueurs d'ethnie rome, joueurs qui alors n'auraient pas peur de se dire rome. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs en Italie et en Europe qui ont tendance à cacher un peu cette identité ethnique. Mais aussi bien sûr avec des joueurs qui la revendiquent, parfois fièrement, et bref, nous avons créé cette sélection. Elle a joué et est arrivée cinquième lors de la compétition européenne de la CONIFA, cette association qui regroupe les équipes de pays, d'entités non reconnues par l'ONU et plus récemment encore, nous avons provoqué un petit miracle footballistique. On a organisé plusieurs matchs amicaux et notre équipe Rome s'est retrouvée à affronter dans notre stade, l'Arena de Milan, la Nazionale Padana, une équipe également affiliée non pas à la FIFA mais à la CONIFA. Mais qui est surtout l'émanation footballistique de la Lega Nord, la Ligue du Nord dont vous connaissez sans doute la ligne politique et qui a une aversion assumée des Roms. Le foot s'est révélé être un langage plus fort que les antagonismes politiques. Lors de ce match, la dite Nazionale Padana a gagné 2-0, mais ce n'était pas une question essentiellement de victoire. Et le match n'était pas juste un miroir d'une conflictualité politique. Non, la chose la plus importante, c'était le football. Donc de cette façon, je ne dis pas qu'on résout tout, mais ces identités apparemment si lointaines, si adverses à partir du moment où les joueurs avaient enfilé leur maillot et que l'arbitre fixait les règles du jeu de la compétition, elles ont disparu et les discriminations ont disparu. Chacun reconnaissait l'autre. Ces phénomènes identitaires trouvent dans le langage du football une identité plus forte encore. Même s'il y a aussi à faire, bien sûr, au niveau des médias et de la propagande politique, etc. Et mon discours reste minoritaire. Mais c'est important de savoir et de voir que l'on peut ainsi combattre ces discriminations culturelles.
Le football plus important que tout, nous dit Alessandra Aleotti, fondateur de cette équipe milanaise Brera Calcio, qui était au micro de Clément Salazar, Alessandro Aleotti, qui est par ailleurs l'auteur de cet ouvrage, Il Calcio Perfetto, paru aux éditions Brera Football Club. Merci à lui et merci surtout à vous, Loïc Trégourès, qui avait été en duplex avec nous depuis Lille, pour nous éclairer sur ce que le foot fait à la politique. Je rappelle que vous réalisez donc cette thèse sur le football dans les Balkans à l'université Lille 2. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Culture dans Culture Monde.